Cette est une sorte d'île située entre la mer et les Tonto.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez,
on y va.
Sandrine Mini, bonjour.
Bonjour Yves.
Alors Sandrine, comme beaucoup de Sétois, vos origines sont italiennes.
C'est vrai.
Et matinée de breton.
C'est ça.
Vous êtes tombée dans la culture en Avignon, donc pas très très loin d'ici. Et vous avez navigué jusqu'à Décines, près de Lyon, avant d'arriver à Sète. En ce moment, aujourd'hui, de votre parcours, depuis près de 10 ans ici à Sète, choisiriez-vous la même voie ?
Ah ah, quelle belle question. Alors, ça va faire 8 ans exactement, septembre, que je suis arrivée dans cette belle ville et belle île singulière. Très honnêtement, pour moi, tout a convergé vers Sète. J'ai eu le bonheur et la chance ou l'opportunité de pouvoir travailler 7 ans à Rome. Comme vous l'indiquez, j'ai un papa sicilien, j'ai une maman bretonne. Et quand on tire un trait entre leurs deux villes d'origine, ça passe par Sète. C'est ce qui m'a toujours fait rire. C'est parce qu'on me dit « Ah, mais tu n'es pas d'ici !» Parce que voilà, à Sète, on est sétois, on ne l'est pas. Mais moi, je dis toujours, bah, vu que j'y vis et que je partage et que j'aime cette ville vraiment avec un amour sincère et ses habitants et tout ce qui peut s'y créer d'un peu fou. C'est un peu la ville de toutes les expérimentations. J'aime beaucoup cet esprit créatif aussi de cette ville. Pour moi, j'y suis bien et tout a, je pense, tout ce qui a précédé m'a conduit vers cette ville-là. Donc c'est une concordance de plein de choses. Il y avait bien sûr ce projet de direction de ce théâtre, mais pas que ça. Ça faisait sens par rapport à ce qu'il y avait eu avant. Je ne sais pas ce qu'il y aura après, mais en tout cas, par rapport à ce qu'il y avait eu avant.
Ah. Attendez, on va voir. C'est intéressant que c'est la première fois que quelqu'un me dit une chose comme ça, c'est-à-dire vous avez, entre l'Italie et la Bretagne, si on tire un trait, il y a sept au milieu, c'est étrange quand même. Mais alors, est-ce que vous êtes plus venu ici pour la ville ou pour le théâtre ?
Alors en fait, moi j'avais pas cette envie de diriger à tout prix une scène nationale. C'était pas dans un projet de carrière aussi linéaire que ça, parce qu'avant j'étais en scène conventionnée pour la danse, et j'étais très heureuse aussi de ce qui s'y fabriquait. En revanche, le fait d'être sur ce territoire-là, c'était le bassin de Thaux, puisqu'on est une scène nationale d'agglomération et que donc on travaille sur l'ensemble des 14 villes, ça a vraiment été une révélation. Et moi, j'avais envie de développer un projet artistique sur ce territoire. Donc voilà, et ce choix, il a été déterminé aussi parce que c'était là. Et bon, venant d'un autre théâtre, ça s'est fait par le biais du poste sur la scène nationale, mais il y avait vraiment, je ne serais pas du tout allée développer un projet à Reims, ou je ne sais pas, ça n'aurait pas été mon ADN
même
de projet,
pour,
ni mon
pour,
identité, même si Reims
même
est une ville
scène,
magnifique.
Même pour une scène nationale.
Ah ouais, absolument.
D'accord.
Non. D'ailleurs, si je n'avais pas été retenue à Sète, je partais au Maroc, à Casablanca. Donc vous voyez, ça restait quand même... Voilà, j'avais été retenue pour diriger l'Institut français de Casablanca, et juste après, j'ai été shortlistée puis choisie pour Sète, et donc mon choix s'est porté sur Sète. Ouais. Mais pour moi, c'était au sud de la Loire et de toute façon, clairement la Méditerranée.
Oui.
Donc
alors,
voilà.
C'est étrange ce que vous me dites, parce que c'est vrai qu'il y a une chose étrange à Sète, c'est que les Sétois ont tendance à dire « vous n'êtes pas d'ici, les Parisiens », etc. Et mon épouse qui fait de la rame, alors oui, je vais parler de moi, mon épouse qui fait de la rame s'est fait agresser gentiment, mais un peu la parisienne.
Oui, c'est ça.
Et un jour, ça l'a énervée, et elle a dit à la dame, comment vous appelez ? Et là, la dame a eu un temps d'arrêt parce qu'elle a compris qu'elle était piégée, parce qu'elle lui donne un nom à consonance italienne.
Et oui.
Évidemment. Et donc ma femme lui dit, alors vous êtes sétoise ou vous êtes d'origine italienne? Moi je suis française de souche. Alors elle était très 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 embêtée. Revenons un peu à ce que vous me disiez. Alors donc, qu'est-ce que vous avez pu faire dans la scène nationale, avec cette scène nationale, ce que vous espériez faire dans la ville?
Alors, je pense que depuis 2-3 saisons, on y est vraiment arrivé. Ça a pris un peu de temps parce que, alors qu'on démarrait le projet, on a eu le Covid. Donc, il a fallu tout reparamétrer, repartir à zéro. La salle s'était vidée. Il a fallu beaucoup, beaucoup travailler avec les équipes pour re-remplir notre salle. Mais là, je trouve qu'avec cette saison... Et hier soir, on avait encore un spectacle d'une chorégraphe italienne, de Turin d'ailleurs, plutôt une nordiste, Sylvia Greba, où il y avait 700 personnes dans la salle et où les gens riaient tellement, que je me suis dit, tiens, ça y est, j'ai l'impression que j'ai réussi à trouver un peu cette identité du projet qui est à la fois extrêmement méditerranéen, parce que bon, c'est ce que je suis, j'ai travaillé 7 ans à Rome, donc aussi une connaissance de la scène vivante de l'Italie, même si elle est en ce moment bien en difficulté avec tous les problèmes qu'il peut y avoir là-bas, mais en tout cas d'avoir aussi en lien avec les Espagnols beaucoup, d'avoir trouvé un peu ce dosage entre une identité italienne très forte, mais aussi espagnole, mais aussi avec le Maroc, puisqu'on a aussi un lien très fort. Donc c'est le sens du travail qu'on développe avec Walid Ben Selim, qui est notre compositeur en résidence. On est en train de travailler sur un grand oratorio méditerranéen pour 2026. J'ai l'impression qu'on a réussi, je l'espère en tout cas, à tricoter avec les publics, les artistes, et beaucoup aussi que nous on a accueillis à bras ouverts et qui se sont installés dans la ville, comme Fabrice Melchior qui vivait au Portugal, qui a décidé de poser ses valises à 7. Petit à petit, voilà, la ville a adopté des artistes ont adopté la ville, et ça, j'ai l'impression que les habitants, peu à peu, adoptent aussi le projet qu'on essaie d'y développer. Donc ça, c'est plutôt chouette, et j'espère que voilà, on va continuer dans ce sens-là, en tout cas de générer des rencontres aussi. Par exemple, on réfléchit beaucoup à comment on peut créer des occasions pour que les artistes du territoire se rencontrent et créent des moments ensemble. C'est ce qu'on a fait pour l'anniversaire de René Lacaille, grand artiste ultramarin donc de La Réunion, installé à Sète depuis quelques années. Et où, voilà, sous forme de carte blanche, René, il a vraiment... refait tout un parcours dans sa carrière, et en même temps en associant beaucoup d'artistes du territoire, et c'était joyeux, c'était joli, ça résonnait bien.
C'est un projet, tel que vous le présentez, qui est intéressant parce que il est à la croisée, l'Italie, l'Espagne et le Maroc. C'est vrai que Sète est profondément ancré l'Italie. Moi, j'ai été surpris parce que, quand même, l'Italie et Sète, c'est pas rien. Je pensais qu'il y avait plus d'Espagnols que... Non, c'est les Italiens. Et le Maroc, c'est pas pour rien non plus, parce que les bateaux partent. Mais est-ce que vous pensez que les habitants de Sète et la modification progressive des habitants de Sète est sensible à cette culture méditerranéenne?
Alors c'est vrai qu'avec peut-être les nouveaux arrivants sur la ville, ils vont peut-être un peu décontenancés au départ, mais en réalité, je trouve qu'ils accueillent plutôt chaleureusement les propositions qu'on y fait, parce qu'ils se disent que ça n'existe pas ailleurs et qu'on n'a pas dupliqué. On reproche souvent au réseau des scènes nationales de toutes faire les mêmes choses. Et je crois que nous, on a quand même cette identité qui est un petit peu à part, ou en tout cas... C'est pas forcément la nécessité d'être à part, mais d'être juste en résonance avec l'endroit où on vit et D'accord. Où on développe des projets, et où des artistes se sont installés et développent des projets. Des artistes étaient déjà là d'ailleurs, et c'est plutôt ça. Non, c'est plutôt bien accueilli, parce qu'on les embarque dans des histoires nouvelles, et que peut-être ces choses-là, ils les verraient moins à Paris ou ailleurs, bien qu'on ait aussi des artistes évidemment de niveau national et international. Cette année, on avait fait tout un fil rouge avec le Portugal en écho à cette Lisboa. Voilà, on est toujours Et puis comme on travaille très en lien et en partenariat avec nos collègues, que ce soit l'association 7 Los Angeles dont je parlais à l'instant, le dancing, le crack, le cri, voilà, on est très en partenariat. Du coup, ça ouvre aussi ça et ça donne plein d'occasions de... Ouais. Sandrine, de présenter des nouvelles choses.
On a beaucoup parlé de votre travail, donc maintenant on veut parler un petit peu plus de vous et je vais commencer par mon petit jeu habituel. Si 7 pour vous était une odeur, ça serait quoi?
Ah là là, alors une odeur à 7. Ça serait un mélange, je pense, d'iode, mais aussi d'un peu d'odeur de jasmin. Parce qu'il y a certains petits chemins sur le Saint-Clair où on trouve, alors c'est pas exactement du jasmin, mais c'est cet arbre dont je ne connais même pas le nom d'ailleurs, mais qui a un parfum comme ça un peu capiteux, c'est des fleurs blanches. Et voilà, pour moi ça serait ce mélange de ça, et pour moi du coup c'est déjà un peu l'ailleurs.
D'accord, ben, il faudrait inventer. Plus facile pour vous, si c'était un spectacle.
Ah ah. Alors, c'est un spectacle. En fait, ça serait un spectacle où il y aurait plein de choses. Alors, peut-être qu'il n'existe pas encore, mais ça serait un spectacle où à la fois il y aurait des arts du mouvement et des circassiens, parce qu'il y a beaucoup d'artistes de ce champ-là qui sont installés. On travaille notamment en lien avec Claudio Stellato, encore un nom italien, mais il arrive de Belgique juste avant, pour son prochain projet plutôt en art du cirque. Sébastien Le Guen aussi, qui est dans cette esthétique-là. Et puis la musique, bien sûr, qui est très très forte à 7, les musiques du monde. Et puis aussi le récit et la parole avec un Fabrice, Melchior maintenant, mais aussi tous les poètes qui sont installés là. Donc c'est vrai que moi, dans mon rêve absolu, si on devait imaginer un spectacle qui identifierait, qui représenterait cette ville, j'adorerais créer un format un peu dingue au Théâtre de la Mer. Alors on va le faire en partie l'année prochaine, avec toutes ces esthétiques qui pourraient peut-être raconter quelle serait notre Méditerranée idéale. D'accord. Parce que et moi, j'aimerais beaucoup faire ça, parler de la Méditerranée idéale.
Et si ça était une couleur?
Ah, une couleur. Bah, pour moi, ça reste le bleu quand même.
Oui, bien sûr.
C'est un cliché, mais pour moi, il y a une qualité de lumière dans cette ville parce qu'elle est une presqu'île et parce qu'elle est... elle a ce front maritime qui est absolument incroyable.
Et puis parce qu'il y a le vent. Oui. Le vent qui nettoie le ciel, c'est merveilleux.
Et c'est à nulle part.
Et alors, le piège maintenant, si 7 était une musique ou une chanson.
Ah! Alors, c'est une musique... Alors, c'est caricatural de dire notre cher Brassens, mais dans les chansons de Brassens, il y en a une que j'adore particulièrement, et c'est La Clairefontaine. Et j'adore cette chanson. Ah. Et pour moi, elle est très... chantée, d'ailleurs,
Allait se baigner toute nue.
Dans l'eau de La Clairefontaine. Moi, je l'aime beaucoup, je la trouve sensible. C'est probablement une des chansons de Brassens, peut-être la plus... Une forme de délicatesse, le récit. On peut la chanter presque a cappella. Moi, je l'aime beaucoup.
J'adore Une seule rose suffit. Je trouve ça absolument merveilleux. Eh bien, écoutez, on va écouter, si je puis dire, Brassens.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue. Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues. En détresse, elle me fit signe pour la vêtir d'aller chercher des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys et fleurs d'oranger. Avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi.
Bon, on va abandonner un peu cette
très
magnifique
très belle
histoire. Mais alors, dites-moi, Sandrine, ma question, c'était quand même, est-ce que vous pensez, je disais, si cette était une musique ou une chanson, vous avez répondu Brassens, mais ben, j'écoutais la chanson en me disant, et est-ce que cette ressemble à cette baigneuse?
Ben finalement, un peu quand même. Hein. Elle se... Voilà, pour la découvrir, il faut peut-être des accidents, comme cet
un
accident du vent,
un coup de mistral.
Pour, voilà, on est, voilà, je pense parfois, on se retrouve, on croise comme ça des étoiles de souche dans un restaurant qui tout d'un coup vont, parce qu'on a bu un verre, on est assis à la table d'à côté, vont se dévoiler plus, vont commencer à partager des choses avec vous. Moi, la chance que j'ai aussi peut-être avec mon métier, c'est que du coup, je suis amenée à croiser... pas mal d'habitants et d'habitantes, et finalement le fait de se voir souvent, parce qu'on se croise tout le temps, c'est un village, en plus moi j'habite près des Halles, donc on se croise tout le temps, on se croise beaucoup, on part acheter une baguette de pain, on revient une heure après, ça j'adore, faut pas être pressé, mais et du coup les gens petit à petit se dévoilent, il faut du temps, faut laisser du temps, faut être aussi peut-être dans une forme d'écoute et de, voilà, moi je, enfin dans ma vie près, je suis quelqu'un d'assez discret, justement parce que j'ai un métier un peu plus public, donc
oui,
du coup j'aime bien
vous êtes un personnage public quand même,
voilà,
oui.
Mais du coup j'aime bien voilà, justement, pas nécessairement qu'on me reconnaisse, mais pas pour j'adore parler avec les gens, c'est pas ça, c'est juste de pas être tout le temps en représentation, mais du coup on peut échanger assez facilement, et c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans cette ville. D'abord il y a un lien entre culture savante et culture populaire qui est extrêmement fort.
Ah oui.
Voilà, moi le moment que j'adore et que je fais chaque été, c'est le tournoi des lourds à la Saint-Louis, où je suis là chaque été depuis 8 ans, et que je louperai pour pour aucune raison, j'organise mes vacances pour être venue à chaque fois, et pour moi c'est vraiment un moment
le moment des joutes,
de comprendre. J'avais deux dames absolument incroyables qui m'avaient, sur une des premières années, quand j'étais dans les tribunes, m'avaient expliqué comment les éliminatoires, etc. Donc maintenant, j'ai mon petit stylo, je fais tout de A à Z, je passe les 8 heures, je ne bouge pas.
Vous êtes une aficionada.
Je suis devenue complètement accro. Mais parce que pour moi, ça raconte beaucoup aussi de cette ville. J'aime la ferveur populaire, j'aime, comme avec mes origines italiennes, mais c'est vrai qu'à Sienne, le Palio, il y a des traditions aussi dans les fêtes votives en Sicile. Moi, voilà, c'est des moments qui réunissent la cité et qui font beaucoup de bien, en fait.
Et est-ce que, puisque vous reparlez de l'Italie, est-ce que cette garde, malgré tout, j'allais dire malgré le temps, un petit parfum d'italianité?
Je trouve dans la façon de s'interpeller dans la rue, dans l'espace public, le fait que, voilà, ces grands moments festifs, justement au moment de la Saint-Louis, mais pas que, à Noël, il y a toujours des moments où on voit que les gens se retrouvent avec bonheur, et ce côté de se parler, de s'interpeller, comme ça, même les coups de sang, c'est très italien,
oui.
qu'il peut y avoir. Parfois, on peut assister à des moments un peu tendus, mais pour moi, c'est...
Il y a quelque chose d'étrange, parce que moi, j'ai vécu longtemps en Provence, donc Arles, Marseille. Personnellement, je trouve que l'accent, l'exubérance, le climat, les moustiques, c'est plus violent à Marseille et à Arles qu'à Sète.
Ah oui, complètement.
Ah oui, oui, pour moi, il n'y a pas de discussion. Mmh. Ici, on n'est pas en Provence.
Non, il y a une douceur, on est moins chaud.
On est au Languedoc.
Exactement.
Donc, c'est la Provence un peu calmée, vous voyez.
Voilà, c'est ça. Et puis protestante aussi,
voilà,
par certains aspects.
Absolument.
Donc il n'y a pas ce côté show-off de la Côte d'Azur qui m'insupporte. Et pourtant, moi, toute une partie de ma famille, une famille italienne, voilà, mes grands-parents ont fini leur jour juste derrière Bandol. Et voilà, et j'ai beaucoup de mal avec ce côté-là du Sud. Hein, je ne le dis pas trop fort, c'est mes collègues nous écoutent. Mais en tout cas, je trouve que ce côté beaucoup plus... un peu caché, ou en tout cas plus discret, et moins on la ramène tout le temps,
oui,
même si on peut avoir assisté à des scènes absolument réjouissantes, mais ça fait partie du jeu.
Ça fait pas longtemps que je suis à Sète, mais je n'ai jamais vu à Sète ce que j'ai pu voir à Marseille ou à Arles. Et je ne parle pas de méchanceté, mais les gens se montent au collet à parle en...
En deux minutes,
oui, on ça. Se dit, ils vont se taper dessus.
C'est ça.
Et 5 minutes après, ils sont en train de boire un coup ensemble, totalement réconciliés.
Absolument.
Et ça, j'ai pas vu ça. Alors, le temps monte un peu aussi.
Déjà, c'est parce qu'en fait, toutes les familles sont très liées et il y a quand même une forme de cousinage, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais tout le monde se connaît depuis longtemps.
Oui.
Et même si on est arrivé plus tardivement, une fois qu'on a été accepté et qu'on fait partie un peu de cette grande famille d'habitantes et d'habitants, comme tout le monde se connaît beaucoup, très bien depuis longtemps,
oui.
Je pense que les mouvements de colère ou d'humeur, ils sont très vite abandonnés.
Oui.
Il y a un côté, on est voisins, on a toujours, ses enfants, ils sont à la classe du mien. Enfin, tout le monde se connaît
de cette façon-là. Qui suis un nouvel arrivant à 7, ça y est, je commence un peu à me repérer, mais il y a une chose qui existe partout, mais qui est quand même très, très accentuée à 7, c'est, et je le dis sans méchanceté, mais c'est des coteries, c'est-à-dire c'est des groupes de gens qui ont une histoire, qui pour certains se connaissent depuis l'école primaire,
c'est
voire
vrai.
Avant,
ouais.
Parce que leurs parents se connaissaient, oui. Qui ont des relations extrêmement profondes et parfois extrêmement compliquées. Et quand on arrive là-dedans sans savoir, on comprend pas toujours ce qui arrive. Et voilà.
Et moi, j'ai de la chance parce qu'avec, justement, encore une fois, merci au théâtre de me permettre ça. C'est que, du coup, mais j'avais vécu la même chose quand je vivais en Italie en étant française. C'est qu'on passe à travers tous ces groupes constitués. Je te rejoins complètement. Il y a vraiment cette dimension-là. Et où, finalement, on est accepté. Et on devient un observateur, une observatrice un peu privilégiée de ça. Et moi, j'adore parce que j'arrive comme ça, au gré des dîners, des rencontres, à traverser un peu tous ces groupes. Et c'est hyper enrichissant, en fait. Et l'impression, parfois, d'être un peu une petite souris observatrice.
Oui.
Et ça permet de bien découvrir cette ville et de bien l'appréhender. Et on mesure que lui, il a un cousin, parce que... en fait, il faudrait avoir un arbre généalogique géant.
Et en plus, c'est une histoire. C'est un port.
Complètement.
C'est une ville qui a été longtemps gérée par le Parti communiste, qui sort d'un règne de 3 mandats successifs qui s'est mal terminé pour... le maire, et en plus qui a conduit, je reviens un peu vers vous par ricochet, un changement dont on ne sait pas trop ce que ça va donner dans la communauté du bassin de Thau, dont votre théâtre dépend. Et est-ce que vous pensez, vous n'êtes pas obligé de répondre à une question aussi directe, mais en tout cas, est-ce que vous pensez que ça risque de modifier un peu la donne ?
Alors, en fait, je dois dire que depuis que je suis là, il y avait déjà eu une alternance à un moment où, je crois, il y avait M. Bouldoir à l'Aglou et M. Comen en mairie de 7. C'était légèrement avant que je n'arrive. Je crois que l'Aglou a rebasculé au moment où je suis arrivée, ou très peu de temps après. Ce que j'ai toujours pu constater, à l'échelle, en tout cas, de l'établissement que je dirige, c'est qu'il y a toujours eu, puisqu'on a comme partenaire le département, la région, l'État... Et l'agglo, j'ai commencé volontairement par les plus petits, et un club de mécènes qui regroupe 65 entreprises du territoire, c'est qu'il y a toujours eu une forme de consensus autour de cet équipement et de ce projet-là, puisque c'est le seul équipement labellisé de notre territoire. Et ça, c'est assez vertueux parce que finalement, ça nous permet de continuer à travailler en sérénité dans des moments d'alternance, qui sont effectivement le jeu de toute démocratie, et d'avoir eu toujours un soutien, que ce soit en effet de François Comen sur ce budget 25 qu'il a pu maintenir pour notre équipement. Et c'était plutôt bienvenu au vu de ce qu'il y avait par ailleurs comme baisse d'autres partenaires. Donc voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là avec un maintien de 2026 pour affronter des temps, on le voit bien, on voit se dessiner au niveau national des petites tempêtes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment ce consensus-là et cette entente, et au conseil d'administration, tous les bords politiques sont représentés et on a des discussions tout à fait intelligentes et rationnelles. Donc il faut que ça dure.
Je vous ai posé la question aussi parce que je n'ai pas oublié, vous avez juste fait une toute petite incidence sur l'Italie. avec laquelle vous vouliez avoir des partenariats, et vous aviez l'air de dire qu'ils ont des problèmes en Italie.
Ah oui, oui, bah c'est sûr que le gouvernement actuel, on ne peut pas dire que pour le spectacle vivant, ça soit quand même quelque chose de simple.
C'est pas très bien. C'est
juste un euphémisme d'ailleurs. Oui. Voilà, on a accueilli une équipe cette année qui est arrivée avec un spectacle pas tout à fait terminé, mais parce que le gouvernement avait coupé les subventions des festivals du sud de l'Italie, notamment du Napoli Teatro Festival, au cours duquel cette pièce Orpheus Groove devait être créé, et au lieu d'avoir 4 semaines dans le décor, ils en ont eu 2. Donc voyez ce que ça provoque. C'est une pièce qui arrive en France et qui n'est pas prête, alors qu'elle doit faire le tour de tous les partenaires français, dont le Théâtre de la Tempête à Paris, Lille, enfin voilà, des partenariats assez importants. Et ça, ben voilà les conséquences directes de ces baisses et de ces coupes budgétaires brutales, arbitraires, parce qu'en fait là c'était vraiment une forme de décision de dire le sud de l'Italie c'est des poveracci, comme dit en italien. C'est eux qui pompent tout le fric de l'Italie et on va sanctionner ça. Enfin, derrière, il y a une position idéologique brutale,
bien sûr.
Non avenue. D'ailleurs, le gouvernement italien a dû rétro-pédaler puisque le patron de la région Campagne a fait déclarer cette mesure anticonstitutionnelle. Donc, ils ont pu récupérer leurs fonds et faire en sorte que le festival ait lieu. Mais il a eu lieu 3 mois plus tard avec beaucoup moins de moyens pour les artistes. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, l'Italie, c'est très dur. Mais dès qu'on touche... on va dire à l'intégrité de la pensée, hein, que ça soit voilà, qu'elle soit retraduite dans le spectacle vivant ou autre chose, ça devient compliqué.
Alors ça m'amène, puisqu'on est à la fin de notre entretien, à vous poser les deux questions que je pose à tout le monde. C'est les moments de déprime, vous devez en avoir. Vous allez où ? Quel est l'endroit de la ville qui correspond à vos moments de déprime ?
Alors, disons que c'est un endroit où j'aime bien aller, ou quand je suis un petit peu jou, comme on dit en italien, parce qu'en général, quand j'ai fini cette promenade-là, ça va mieux. C'est dans le quartier du Pont-Levis, il y a un tout petit sentier où on va comme ça jusque vers l'Istel en longeant la mer. Et du coup, ça permet de voir sur l'étang, le soleil. C'est toujours très, très beau, là, quand on va par là. Alors, c'est après. Oui, en fait, c'est le quartier du Pont-Levis, après le centre équestre.
Oui,
et là, il y a
un tout petit
chemin.
Oui,
on peut longer comme ça l'étang et on marche assez longtemps. Et c'est la lumière, il est fantastique. Il y a des centaines d'oiseaux. Et moi, j'aime bien faire cette balade-là. Ça m'apaise.
Ça vous ressource. Et alors, quand vous êtes joyeuse, vous allez où?
Là, on fait la tournée des cafés sympas avec tous les copains. On va au Vin Vivant. On va chez Maryse et Lulu. On allait avant chez notre super Guy Lamour, qui malheureusement chez Tata, qui malheureusement a arrêté ce projet-là. Et c'est dommage parce que moi j'aime bien ces bars, ces toits qui sont encore dans leur jus. Alors maintenant on va pouvoir retourner au Barbu qui est devenu le Muge, repris par Paul Briscoe. Donc voilà, heureusement il y a aussi des projets qui se remontent et qui vont permettre. Et ça c'est très chouette. On peut faire comme ça, 3-4 cafés dans la même soirée, croiser des groupes. Là les festivals arrivent en plus. Donc ça va être
joyeux. Si je comprends bien, vous vous ressourcez au bord de l'étang en regardant l'eau et quand vous êtes joyeuse, vous allez boire un coup.
Avec les amis.
Sandrine, je ne peux pas terminer cette rencontre sans vous laisser 2 minutes, parce que les Sétois connaissent, pas tous, parce que tout le monde ne va pas au théâtre, mais quand même, vous avez un magnifique théâtre.
Oui. J'y passe 70 heures par semaine. Non, je peux pas. Heureusement qu'il me plaît. Il est sublime. Même le foyer. Hier soir, on a fini encore à 1h du matin avec l'équipe de Silvia Gribaudi, la chorégraphe turinaise.
C'est
un petit théâtre à l'italienne, 1904. Ouais. Très, très bien rénové par l'Aglo, justement, il y a 12-13 ans. C'est un petit bijou. Et avec une acoustique, puisque créé pour le bel canto, c'est un outil formidable. Et les Italiens, hier soir, étaient bouche bée en disant « Waouh, une qualité d'équipement comme ça !» Voilà, tous les artistes qui passent sont d'abord très heureux parce que la salle est incroyable, mais aussi comme on a une équipe hors pair, il y a une qualité de l'accueil et l'hospitalité, c'est le cœur du projet. Donc ils sont très bien accueillis, et ça c'est la philosophie sétoise, l'hospitalité.
On ne peut que conseiller aux Sétois et aux Sétoises, mais ils le savent déjà, mais aussi à toutes les habitants du bassin de Thau, et voire jusqu'à Montpellier, un jour de prendre le train ou une voiture et d'aller voir Sandrine Mini et sa programmation au théâtre de Sète. Merci.
Absolument.
Sandrine, de ce moment passé ensemble. Voilà, merci. C'est mon dernier invité pour la saison 2025. On se retrouvera à la rentrée. Et je vous rappelle que si vous voulez être invité à ce moment, c'est pas compliqué, vous contactez Radio Divergence et on se fera un plaisir, moi-même, de vous recevoir. Bonnes vacances à vous.
Sète est une sorte d'île située entre la mer et les Tantos.
La commune, c'était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre Sète.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.